VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du mercredi 11 avril 2018. À la une ce soir, tragédie en Algérie où un avion de l'armée s'est écrasé faisant 257 morts. Nous ferons le point sur la République centrafricaine au lendemain d'affrontements dans le quartier musulman du PK5 de Bangui. Au Togo, l'opposition a maintenu son appel à manifester aujourd'hui alors que le gouvernement a interdit les marches. Et puis le président américain Donald Trump a averti la Russie de frappes imminentes contre la Syrie. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Crash en Algérie, un avion de l'armée s'est écrasé peu après son décollage, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. C'est la pire catastrophe aérienne qu'ait connue l'Algérie. Claire Morin-Gibourg.
Les images tournent en boucle sur les télévisions algériennes. Une épaisse fumée noire se dégage de l'épave de l'appareil dans un champ situé à une centaine de mètres seulement de l'enceinte de la base militaire de Boufarik. Située à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, la zone de l'accident est inhabitée, mais une personne au sol, le gardien du champ, a été blessé par des débris. Aucune hypothèse n'a été encore avancée pour expliquer l'accident. Les victimes sont les 10 membres d'équipage et 247 passagers, dont la plupart sont des personnels de l'armée nationale ainsi que des membres de leur famille, selon le ministère de la Défense. Ce bilan en fait la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie. C'est aussi le quatrième accident d'avion le plus meurtrier au monde ces 20 dernières années.
Sachez aussi que le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours. Cap sur Bangui, la capitale centrafricaine calme ce mercredi après une nouvelle spirale de violence hier dans le quartier musulman du PK5. Une nouvelle opération de désarmement des bandes armées a fait plus d'une vingtaine de morts, en majorité des civils et de nombreux blessés. Sur place à Bangui, on retrouve Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique.
Même si un calme apparent a régné toute la journée ce mercredi dans la capitale centrafricaine, la tension y est encore palpable. Tôt dans la matinée, des manifestants quittant le PK5 ont déposé 17 corps de civils devant le quartier général de la MINUSCA. Des personnes tuées hier au cours du raid contre les bandes armées. Des corps enlevés peu de temps après par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui a annoncé par ailleurs avoir ramassé 9 autres corps et déposé à la morgue. De son côté, la MINUSCA, la force de l'ONU, a signalé 1 mort et 9 blessés, tous membres du contingent rwandais. Ce qui porte à plus de 20 le nombre de casques bleus blessés depuis le lancement des opérations dimanche dernier. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a démenti la présence des militaires centrafricains dans les opérations menées hier par les soldats de la MINUSCA. Cette situation à Bangui a également des répercussions à l'intérieur du pays. Des journées villes mortes ont été observées dans certaines villes contrôlées par les ex-Séléka, précisément Andélé, à Kabo, mais aussi des tensions signalées à Bambari, Bria et Kagabandoro. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Des bandits ont pris la population en otage dans le quartier musulman de PK5 de Bangui. C'est ce qu'a déclaré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à la sortie d'une réunion avec les représentants de l'ONU et de l'Union africaine, selon une vidéo diffusée par l'ONU. L'opposition togolaise n'a pas pu manifester ce mercredi à Lomé, comme dans d'autres villes à l'intérieur du pays. Le gouvernement a interdit les manifestations et positionné des agents de l'ordre très tôt aux différents points de départ. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Étouffé dans l'œuvre, c'est en ces termes qu'on pourrait qualifier la manifestation de l'opposition togolaise de ce mercredi à Lomé. À peine les premiers manifestants ont tenté de se rassembler et demandé aux automobilistes de prendre des déviations que les forces de l'ordre ont pris position. S'en est suivi des jets de gaz lacrymogènes et des courses-poursuites. Les manifestations étant interdites par le gouvernement, les forces de l'ordre déployées dans les coins stratégiques de la ville ont dispersé sans ménagement tout attroupement aux grandes dames des manifestants.
On veut démission, transition, élection au Togo. Parce qu'on est fatigué de tout.
Le régime s'est vraiment enraciné tellement qu'il n'y a pas de solution. Il faut un rapport de force. Je le répète encore, rapport de force.
Nous sommes très décidés. Il peut faire tout. Il va partir. Fort, il doit partir.
Des manifestations sont encore prévues jeudi et samedi. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, l'opposition dit non à la machine à voter et exige l'audit du fichier électoral. Thierry Kamoundi de Top Congo FM, notre station partenaire sur place.
Dans une déclaration commune lue au siège du mouvement de libération du Congo à Kinshasa, l'UDPS, le MLC, l'UNC, ensemble de Moïse Katumbi et Congo Nabisso de Freddy Matungulu contestent les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante le vendredi dernier sur le nettoyage du fichier électoral et exigent en même temps des mesures correctives pour garantir, selon eux, la crédibilité des résultats des prochaines élections. Félix Tshisekedi de l'UDPS, Eve Bazaïba du MLC, Jean Baudouin Maillot de l'UNC et Pierre Lumbi, l'ensemble de Moïse Katumbi, expriment également leur rejet de la machine à voter au prochain scrutin pour notamment son caractère inconstitutionnel. Faisant allusion à la dernière déclaration de la commission électorale sud-coréenne, ils évoquent, je cite, « le risque d'une fraude à grande échelle en cas d'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI ». Fin de citation. Ces leaders de l'opposition invitent par ailleurs le peuple à rester vigilant, à ne pas céder à la manipulation et à s'apprêter à exercer sans retenue son droit constitutionnel de changer démocratiquement le leadership de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Thierry Kamoundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, la responsable de la mission des Nations Unies en RDC a plaidé pour la réconciliation communautaire en Ituri où des massacres ont cours depuis début février. J'ai rappelé aux uns et aux autres qu'ils sont tous congolais. Il faut que l'on puisse identifier individuellement les criminels et les assaillants sans faire allusion à leur tribu, a déclaré Madame Zerougui à un correspondant de l'AFP où les violences ont réveillé la méfiance entre les communautés lindoues des agriculteurs et Emma, des éleveurs. Madame Zerougui a visité le territoire de Djougou, l'épicentre des tueries, qui ont fait au moins 120 morts, d'après un décompte de l'AFP, et une vague de déplacés évaluée à plus de 300 000 personnes de sources humanitaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Niger, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'opposant Ama Amadou, condamné à un an de prison pour un trafic international de bébés. Cet ancien président du Parlement, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, vit à l'étranger. Il doit donc rentrer au Niger afin de purger sa peine, a confié une source judiciaire à l'AFP. Une épouse d'un Sénégalais accusé d'avoir combattu aux côtés de Boko Haram a reconnu à son procès à Dakar avoir été au centre d'importants mouvements de fonds provenant, selon le parquet, d'un chef du groupe djihadiste nigérian. Kumba Nyang, 34 ans, mère de 3 enfants et une des épouses de Maktar Diokane, un des principaux prévenus de ce procès. Au total, 29 personnes, dont 3 femmes, sont jugées pour actes de terrorisme par association de malfaiteurs, par menaces ayant pour but de troubler l'ordre public, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. Mali, l'ONU va entreprendre dans les prochaines semaines une identification des Maliens qui font obstruction à l'appel. L'objectif est de leur imposer des sanctions, a annoncé la France et les États-Unis. Dans le reste du monde, les Occidentaux ont maintenu, en dépit du vote russe à l'ONU, leur détermination à riposter fermement à l'attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar al-Assad, font toujours planer la menace des frappes militaires en Syrie. Les précisions de John Lindon.
La confrontation entre les États-Unis et la Russie sur le dossier syrien s'est durcie. Moscou, soutien indéfectible de Damas, a opposé hier son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Mais en face, les Occidentaux, États-Unis et France en tête, ont redoublé de détermination après avoir fait clairement planer la menace de représailles militaires. La France mettra tout en œuvre contre l'impunité chimique, a assuré l'ambassadeur français François Delattre. Elle annoncera dans les prochains jours la décision sur sa riposte, a précisé à Paris le président Emmanuel Macron. S'inscrivant dans cette fièvre diplomatique, le président Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May sont aussi tombés d'accord lors d'une conversation téléphonique pour ne pas laisser l'usage d'armes chimiques se poursuivre, a rapporté la Maison-Blanche. Washington entend même pousser le bouchon plus loin. Donald Trump a averti aujourd'hui la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie. Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays a promis d'abattre tout missile lancé contre la Syrie, dit néanmoins espérer que le bon sens finira par l'emporter dans les relations internationales, actuellement de plus en plus chaotiques.
L'armée syrienne a évacué des aéroports et des bases militaires dans le pays, de même que les bâtiments du ministère de la Défense et de l'état-major à Damas en prévision de possibles frappes américaines. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Tunisie veut récupérer plus de 2 milliards de dollars de créances douteuses. La société tunisienne de banque, la Banque nationale agricole et la Banque de l'Habitat devraient faire l'objet de ce plan de récupération des créances. Le gouvernement envisage également la mise en place d'un comité de suivi des travaux en collaboration avec le Parlement pour créer un cadre législatif propice à cette opération. L'Afrique du Sud pourrait réduire de moitié son taux de pauvreté d'ici à 2030. Pour y arriver, la Banque mondiale encourage Pretoria à continuer les réformes politiques, économiques et sociales en vue d'encourager les investissements. Le développement des politiques de lutte contre la corruption, de gratuité de l'enseignement supérieur et de réforme de la gestion de l'industrie minière devrait permettre au pays de réussir le pari de la réduction de la pauvreté. D'après l'institution de Bretton Woods, la corruption, les inégalités et la criminalité constituent les principaux facteurs de pauvreté en Afrique du Sud. D'après les chiffres de Washington, la Chine détient presque 1170 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Ce montant représente 20% du total de la dette des États-Unis aux mains d'institutions étrangères. Il constitue en apparence un levier redoutable pour d'éventuelles représailles chinoises en cas de conflit commercial.
Plein feu sur les stades, les sports avec Lionel Gaïma. Bonsoir Lionel.
Ah ouais, c'est du nouveau pour toi. Bonsoir Morgane.
Suite et fin des quarts de finale, retour de la Ligue des Champions aujourd'hui.
En effet, dans l'affiche du jour, le Real de Madrid est en rencontre avec la Juventus. Les Madrilènes sont acculés présentement par la Juve. Les Turinois ont trouvé le chemin de filer de la deuxième minute de jeu grâce à un but de Mario Mandzukic. Le Polonais est revenu à la charge à la 38e minute pour le 2-0. Il ne reste plus donc un but au Turinois pour égaliser le 3-0 du Real de Madrid à l'aller. Dans l'autre match ce soir, il y a toujours un 0-0 pour le moment entre le Bayern et le FC Séville.
Ligue des champions toujours, Mohamed Salah a égalé le record d'Eto'o.
En effet, Morgane, en inscrivant un but lors du succès 3-0 face à Manchester City, l'attaquant égyptien a porté son total de buts sur une saison de Ligue des champions à 8 réalisations. Il a ainsi égalé le Camerounais Samuel Eto'o qui a inscrit 8 buts sur la saison 2010-2011. Salah et Eto'o donc sont talonnés par le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 7 réalisations chacun.
En Afrique, les affiches du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2018 sont connues.
En effet, achevé hier, le premier tour des éliminatoires a permis à 9 sélections de valider leur billet pour le second et dernier tour de qualification qui aura lieu du 4 au 9 juin. Exempté du premier tour, le Nigeria, 8 fois champion d'Afrique, le Cameroun et l'Afrique du Sud vont tous entrer en jeu, tout comme le Mali. Les affiches Côte d'Ivoire-Mali et Congo-Cameroun vaudront le détour, de même que le derby Zambie-Zimbabwe. La Gambie fait face au Nigeria, à suivre aussi Algérie-Éthiopie et Lesotho-Afrique du Sud.
Des athlètes camerounais ont disparu aux Jeux du Commonwealth.
Ah oui, assez intriguant, hein. 8 athlètes participants aux Jeux ont disparu et auraient pris la fuite, d'après Simon Molombe, attaché de presse de la délégation camerounaise. Parmi eux, 3 haltérophiles, Olivier Matam-Matam, Arcangeline Fuoji et Petit Minkumba, ainsi que les boxeurs Christian Dje Tsoye et Simplice Fotsala. Les organisateurs, jusque-là australiens, ne savent pas exactement, mais ils ont appelé les athlètes à respecter les lois.
Merci Lionel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Le Tchad n'est plus sur la liste noire qui interdisait depuis plusieurs mois l'entrée de ses ressortissants sur le territoire américain. C'est ce qu'a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué. Washington estime que le Tchad a mis à niveau ses normes de sécurité correspondant aux exigences de base de la sécurité nationale américaine. L'interdiction sera formellement levée à partir du 13 avril. Eki Abadou a joint à N'Djamena le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Zene Cherif.
Tout d'abord, nous tenons à saluer la levée de cette mesure que nous avions qualifiée dès le départ d'injuste. Et effectivement, nous sommes d'accord que la mesure ne visait pas le Tchad et les Tchadiens, mais telle qu'expliquée par nos amis américains, elle visait plutôt l'environnement sécuritaire dans lequel le Tchad se trouve et la sécurisation des documents de voyage du Tchad. Quelles qu'en soient les conditions, ce qui est important, c'est que cette mesure qui ne se justifiait pas à notre point de vue a été levée. Et c'est déjà une bonne chose. Nous avions déjà eu des indications lors de la visite du secrétaire d'État sortant, M. Tillerson, que la mesure allait être levée début avril.
Vous parlez d'indications. Et quelles étaient ces indications? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la levée est effective?
Il faut reconnaître qu'avant la levée de cette mesure, il y a eu un travail qui a été fait en amont. Effectivement, les services compétents de deux pays ont eu à travailler ensemble pour que la partie américaine puisse obtenir les informations dont elle avait besoin. Je pense que quand le secrétaire d'État sortant a effectué sa visite ici à N'Djamena, les choses étaient suffisamment avancées. La partie américaine était en train déjà de rédiger un rapport soumis début avril. Il y a une forte probabilité que le Tchad soit retiré de la liste. Ce qui fut fait, nous nous en félicitons.
Alors vous en félicitez, les Tchadiens aussi avaient beaucoup parlé d'injustice. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait si finalement énormément de Tchadiens se dirigent vers les États-Unis, voyagent vers les États-Unis?
Les Tchadiens ne faisaient pas partie de ceux qui se dirigeaient en masse vers les États-Unis. Par an, ça ne dépassait pas les 100 ou 200 visas. Donc peut-être le fait que pendant quelques mois, on a privé les Tchadiens de la possibilité de se rendre aux États-Unis ferait que peut-être dans l'immédiat, il y aura un afflux de demandes de visa. C'est fort possible.
Le rapport de force que fait parfois les États-Unis, quel est le regard que vous pouvez en avoir à distance? Parce que vous avez quand même parlé du mot injustice, mais en même temps, vous avez parlé des États-Unis qui est un pays ami.
Justement, en ce moment, mon optimisme a été qualifié peut-être de prématuré, mais nous avions certainement confiance. Nous reconnaissons de façon tout à fait lucide l'importance des États-Unis en tant que partenaire, non seulement pour le Tchad, mais pour tout le continent africain. Et je pense que de notre côté, nous allons mettre tout en œuvre pour que la coopération et le partenariat stratégique que nous avions puissent se renforcer encore davantage.
Voilà, c'était le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Zene Cherif.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Retour sur l'accident d'un avion militaire algérien qui s'est écrasé ce matin près d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. L'appareil, un Ilyushin 76, venait de décoller de la base aérienne de Boufarik, à environ 25 km au sud-ouest d'Alger. Pour en parler, John Lindon a joint à Alger Mustapha Ait Mouhoub, journaliste et rédacteur en chef de l'APS.
Les Algériens, ils ont appris avec beaucoup de consternation, avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de chagrin, cette triste nouvelle. Il s'agit réellement d'une hécatombe. Environ 257 selon le premier décompte de communiqué du ministère de l'Éducation nationale. 257 morts, dont une bonne partie sont des soldats de l'ANP, ou de leurs proches ou de leurs familles. Donc, avec beaucoup beaucoup de tristesse, d'affliction qu'ils ont appris ça. Et jusqu'à maintenant, les Algériens, ils sont sous le choc. C'est une perte terrible, c'est une hécatombe, de par le nombre déjà de morts enregistrés lors de cet accident.
Une commission d'enquête a été immédiatement mise sur place pour rechercher les causes de cet accident. Est-ce qu'on a quelques premiers éléments?
Non, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'éléments sur cette enquête. Elle vient d'être instituée par des autorités compétentes. Il s'agit de chercher maintenant les causes de ce crash. Tous les éléments qu'on a, c'est que lors du décollage de l'avion, juste quelques minutes après, l'avion s'est précipité et s'est affaissé carrément sur, à côté de la base militaire. Donc, il s'agit de prime abord d'un accident, d'un crash. Maintenant, des raisons, jusqu'à maintenant, on n'a aucun élément. Et il peut s'agir d'une faute humaine, d'une erreur de pilotage, par exemple, comme il peut s'agir d'autres choses. Mais pour l'instant, selon le témoignage oculaire, l'avion a décroché, c'est-à-dire il a explosé en arrivant à terre, c'est-à-dire quand il s'est complètement affaissé, il a explosé, donc il s'agit bien d'un crash.
Est-ce qu'on sait qui étaient les occupants de l'avion?
Il s'agit d'un avion militaire, en bonne partie de militaires algériens, de jeunes soldats algériens qui se rendraient à leur caserne à Béchar et à Tindouf, et de leurs proches, de membres de leur famille.
Moustapha Aït Mouhoub, journaliste et rédacteur en chef de l'APS. L'exercice militaire dénommé Flintlock, organisé depuis 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a été lancé ce matin au Niger et à Ouagadougou au Burkina Faso. L'exercice permettra de soutenir l'armée burkinabé à faire face au terrorisme. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Des forces spéciales américaines, en compagnie des forces spéciales européennes et africaines réunies à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour l'exercice militaire du commandement américain Flintlock 2018. Le colonel Rémi Kabore, chef de la division opération adjoint de l'état-major des armées du Burkina Faso, explique pourquoi cet exercice militaire.
L'exercice Flintlock est un exercice militaire multilatéral, planifié, coordonné et exécuté par les forces spéciales africaines, américaines et leurs partenaires européens. Cet exercice-là vise en fait à encourager les pays à coopérer au niveau de la région, à stabiliser la région transsaharienne en réduisant au maximum les capacités de nuisance des groupes d'extrémisme violent.
Pour cette édition de Flintlock, plus de 1500 soldats, des forces spéciales essentiellement de plus de 20 pays africains participent. Ces soldats maliens qui parlent sous anonymat est au Burkina Faso et espère acquérir le maximum dans cet exercice militaire.
Nous avons quitté le Mali, venir au Burkina Faso pour des entraînements. Nous sommes venus en compagnie de soldats américains et des soldats de bien d'autres pays. Et dans cet entraînement, il y a que nous arrivons à nous connaître les uns les autres. Et ce que nous connaissons déjà dans notre travail, on peut apprendre plus. Si nos autorités ont eu l'idée de nous mettre ensemble pour ce genre d'entraînement, c'est parce qu'elles ont confiance. Et pour cela, nous allons nous y mettre et ce qu'on va apprendre ici, on va l'utiliser justement pour combattre les terroristes.
En clair donc, la formation permettra de lutter contre le terrorisme. Le chef de la division opération adjoint de l'état-major des armées du Burkina Faso.
Mais de façon concrète, cet exercice va permettre d'acquérir pour nous une sérieuse formation et bien sûr un savoir-faire niveau tactique qui pourront être employés dans l'immédiat dans la défense des populations civiles au niveau de notre pays et bien sûr de tous les pays participants à cet exercice.
Flintlock, cet exercice militaire multilatéral, est annuel. En plus du Burkina Faso, il est organisé simultanément au Niger et au Sénégal. Il va durer 2 semaines. C'est le plus grand exercice militaire multinational d'opérations spéciales et d'entraînement entre les nations africaines et leurs partenaires occidentaux. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Mountou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Sims Loumami, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude, appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA, a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni les directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le Dr G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Les représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois, soutenues par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants, tels que l'ICAP de l'Université de Columbia, aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique, datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de SIDA VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.